Studio Tamani, voici les informations en français.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition Le Sommaire. Les activités des écoles catholiques subventionnées risquent d'être suspendues en cas de suppression de la subvention de l'État. La nouvelle annoncée par les évêques du Mali inquiète déjà enseignants et parents d'élèves. Proclamation ce vendredi 9 août à 10h des résultats du baccalauréat national. L'information a été donnée ce mercredi par le ministère de l'Éducation nationale. Indemnités et autres avantages accordés aux anciens présidents d'institutions ou anciens ministres. Qu'en pense la population? La réponse dans la rubrique « On en parle ». Voilà pour le sommaire, les développements dans un instant avec Lala Diarra Touré. Ibrahim Sanogo est à la mise en onde. Merci d'être à l'écoute de Studio Tamani. Je vous l'annonçais à l'instant, les évêques du Mali menacent de suspendre les activités de toutes les écoles catholiques subventionnées par l'État si ces derniers supprimaient ces subventions. La nouvelle a été annoncée par le diocèse de Sikasso dans un communiqué rendu public le 30 juillet dernier. Aussi, les évêques prévoient de licencier l'ensemble du personnel enseignant de ces écoles pour motifs économiques à partir du 31 octobre 2024. La situation préoccupe déjà syndicats d'enseignants et parents d'élèves. Mamadou Samaseko pour le reportage.
Depuis l'annonce de cette nouvelle des évêques du Mali, les enseignants des écoles catholiques de Sikasso s'interrogent sur leur sort pour les semaines et les mois à venir. Leur syndicat affirme avoir tapé à la porte du Premier ministre et attend toujours son retour. Benoît Daou, secrétaire général du syndicat, demande à tous les partenaires de l'école de s'impliquer davantage pour une issue heureuse.
Nous avons demandé une rencontre avec le Premier ministre et le ministre de l'Éducation, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore répondu à cette audience-là. On attend quand même qu'ils réagissent vite pour qu'il y ait une issue favorable.
C'est la même inquiétude chez les parents d'élèves. Ils appellent les différentes parties à trouver un accord pour l'intérêt de tous.
Notre confiance a pris un sérieux coup envers cet ordre d'enseignement.
Quel avenir pour nos enfants?
C'est vraiment inquiétant. Les inscriptions sont pratiquement bouclées dans beaucoup d'établissements. Cette fermeture n'arrange personne.
Dire que cette école catholique qui existe depuis belle lurette va fermer n'est vraiment pas une bonne nouvelle.
Le ministère de l'Éducation que nous avons approché pour entendre sa version dit ne pas être au courant de ce communiqué des évêques. Il faut tout de même signaler que cette année, les écoles catholiques ont été paralysées par de nombreux mouvements de grève des enseignants.
Merci Mamadou Samaseko. Vous pouvez donner votre avis sur ces informations sur notre page Facebook ou notre compte X anciennement Twitter. Autre grande ligne de ce journal, les résultats du baccalauréat session de juin 2024 seront proclamés ce vendredi 9 août à partir des 10h. L'information a été communiquée ce mercredi matin par le ministre de l'Éducation nationale. Selon le document, les résultats seront affichés dans les lycées et les académies d'enseignement. Ils peuvent aussi être consultés sur le site du ministère. Pour rappel, plus de 230 000 candidats ont composé cette année dans les différentes épreuves. Parlons sport dans cette édition. De plus en plus, le Mali n'est plus performant dans certaines disciplines sportives sur la scène internationale où il est tout simplement absent pour certains observateurs sportifs. Cela s'explique par le manque d'engouement pour ces disciplines de nos jours. Il regrette la disparition des semaines nationales qui faisaient susciter de l'intérêt et éclore des talents. Mariam Maïga pour plus de détails.
Au-delà de son caractère de renforcement de la cohésion nationale et de l'enseignement des valeurs républicaines, la semaine de la jeunesse permettait de dénicher des talents sportifs. Mambi Djabidi Keletigi, ancien de la Semaine nationale de la jeunesse, estime qu'il faut nécessairement reprendre cette activité des jeunes.
Amara, qui était marathonnier, natif de Bouni, des grands cyclistes qui venaient des petits points, qui ont émergé. Moi, je connais des joueurs à Sikasso qui sont joués dans les grands clubs, qui ont été décelés à travers ces semaines-là.
Souri Djakité est un fonctionnaire retraité de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture. Pour lui, dans le contexte actuel, il sera difficile de faire renaître la Semaine nationale de la jeunesse.
Ce n'est pas facile d'aller chercher les impôts dans les localités pour pouvoir dire que les impôts retrouvés font allouer à la jeunesse. Avec l'insécurité, les maires ne peuvent plus aller récupérer les impôts. Est-ce que le gouvernement est à mesure de faire autant que le passé?
Une pensée que ne partage pas Souleymane Touré. L'inspecteur de la jeunesse et des sports estime qu'il suffit de la volonté politique pour relancer la Semaine nationale de la jeunesse.
Autre actualité, le comité syndical de la direction des ressources humaines du secteur de la santé et du développement social a entamé ce mercredi une grève de 72 heures. Les grévistes exigent entre autres l'acquisition d'un local adéquat conforme au cadre organique de la structure d'ici la fin de l'année et l'amélioration du débit de la connexion. Cependant, ils estiment que le service minimum est assuré dans les services relevant de la structure. Youssouf Traoré est le secrétaire général du comité syndical de la direction des ressources humaines du secteur de la santé et du développement social. Il est au micro de Maman Babakunta.
Nous avons retenu, disons, 8 points et les 7 points globalement concernent les conditions de travail très, très déplorables à la DRH. Et cela depuis des années. Nous avons compris que les autorités ont abandonné la DRH depuis sa création. Et chaque année, nous avons tenu à informer, à alerter, à signaler aux plusieurs autorités comme quoi nous vivons dans les conditions de travail très dures. Mais malheureusement, toutes ces questions, toutes ces lettres que nous avons envoyées pour déplorer les conditions de travail sont restées très vaines. Tout le monde a besoin de la DRH. Nous avons un effectif quand même d'à peu près de 23 980 agents. Et ces 23 980 agents, rares sont, je dis bien rares sont ceux qui n'ont pas besoin du service de la DRH en une année.
Sur un tout autre sujet, à présent, le volontariat national a été institué au Mali par la loi du 28 juillet 2011. Selon le Centre national de promotion du volontariat au Mali, CNPV, le volontaire est une personne qui s'engage pour des œuvres citoyennes et patriotiques. Qui peut être volontaire au Mali? Comment accomplir cet engagement civique et patriotique? Moussa Mali Sissoko s'est entretenu avec Issa Mariko, directeur général adjoint du CNPV, Centre national de promotion du volontariat au Mali. On l'écoute.
L'engagement volontaire est d'avoir un engagement civique patriotique. Pour être volontaire en République du Mali, il faut avoir 18 ans révolus, pas d'âge limite. Même à 100 ans, on peut être volontaire. Jure de ses droits civiques. Même sans diplôme, un électricien, un plombier, un chauffeur, un mécanicien. Donc les volontaires retenus sont mis à la disposition de la structure d'accueil. Le volontariat, comme j'ai dit, ce n'est pas un emploi. Ça prépare à l'employabilité. Ce n'est pas non plus un contrat de travail, c'est un contrat d'engagement civique. Nous accordons à ce volontaire ce que nous appelons l'indemnité de subsistance, 50 000 francs, qui est donnée au volontaire à la fin de chaque mois. Là, le contrat d'engagement commence à partir de 3 mois à 2 ans. Le volontariat, c'est à temps plein.
Actualité hors du pays. À présent, le Niger a annoncé hier mardi avoir rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Niamey accuse Kiev de faire l'apologie du terrorisme dans les derniers événements intervenus au Mali. Rappelons que le Mali a annoncé dimanche dernier la rupture de tout lien diplomatique avec l'Ukraine pour son implication dans les attaques terroristes contre les forces armées maliennes à Tenzawaten.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'ancien Premier ministre Moussa Mara affirme avoir renoncé aux premières indemnités dues à ce poste qu'il a occupé. Le geste a été différemment apprécié par les citoyens. Alors, que pensent les Maliens de ces primes et indemnités que l'État accorde aux anciens dirigeants? C'est le sujet de notre rubrique « On en parle » réalisée par Lali Tangara avec le concours de nos correspondants locaux.
Parce qu'ils ont travaillé pour le pays, ils se sont sacrifiés pour ce pays. Donc quand ils sont à la retraite, donc on doit leur donner quelque chose.
Il mérite quand même une pension, mais c'est à l'Assemblée de voter cette loi tout en précisant qu'elle peut être revue en temps de crise.
Avec cette crise, on doit soutenir le pays. L'apport aussi minime soit-il de chaque personne peut apporter des millions à l'État.
Je pense qu'après avoir servi au plus haut grade de l'État, ces primes-là sont raisonnables. Que c'est avec ce qu'on leur donne qui va leur permettre vraiment de joindre les deux.
Certaines anciennes autorités bénéficient de ces primes. Je pense bien que c'est la loi qui l'autorise. Donc si la loi l'autorise, c'est une très bonne chose.
La procrastination ou encore la tendance à remettre tout au lendemain. Notre chronique Zoom sur s'intéresse au sujet. Nous retrouvons Lali Tangara.
Est-ce de la paresse, de la négligence ou le manque de volonté? Je ne saurais le dire. Voici des personnes qui sont toujours zen et sans pression. Elles estiment toujours avoir le contrôle de la montre, même si ce n'est pas le cas. Avec elles, tout est remis à demain. Ozo est un jeune du quartier, connu pour remettre tout à demain. Il aime tellement ajourner les choses que son mariage allait en dépendre. Mais heureusement que les proches sont là. C'est aussi ça la famille. ou bien. Il n'est pas seul. Mamie, sa nièce, suit exactement ses pas. À quelques jours des examens, elle continue toujours de remettre ses révisions à plus tard. Et le jour J, la voilà en train de regarder de tous les côtés. Mais c'est trop tard. Comme le disait mon papy, il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain. Et sachez que demain est souvent le jour le plus chargé de la semaine. Alors, chers auditeurs, remets à demain ton repas, mais non ton travail. Autrement dit, quand on remet les choses à plus tard, ce plus tard vient toujours trop tôt.
Merci, Lale Tangara. Message bien compris. Retrouvez désormais nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant, 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. Hépatite, un mal silencieux, c'est le thème du débat d'aujourd'hui. Alors, Mariam Koulibaly, bonsoir. Qui sont nos invités?
Nos invités sont Dr Abou Diallo de SOS Hépatite Mali, Amadou Goïta, coordinateur des programmes de l'ONG Adilo, il est à Yoroso, il sera au téléphone, Dr Jean-Paul Dambélé, chef de division prévention et prise en charge à la cellule sectorielle de lutte contre le VIH, SIDA, la tuberculose et l'hépatite virale.
Merci Mariam, un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Ainsi se referme ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter gratuitement et les magazines qui vont suivre en appelant les services Kounafouni au 37 321, c'est gratuit. Vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Bonsoir à nos auditeurs de Benkunda, c'est dans la région de Kai. Au Mali, la saison pluvieuse continue de causer des dégâts importants. De nombreuses localités du pays sont touchées par des inondations. Face à cette situation, des spécialistes de la santé alertent sur les risques de maladies hydriques liées à la montée des eaux. Mais du côté des autorités, des assurances sont données par des responsables de services publics pour faire face à ces catastrophes. Alice Cissé nous en dit plus dans ce magazine Santé.
Des maisons effondrées, d'autres toujours inondées, donc inhabitables, des égouts submergés. Les stigmates des inondations sont encore visibles dans la capitale et dans certaines régions du pays. Ces catastrophes ont fait de nombreux sinistrés et des dégâts matériels importants. À Bla, dans la région de Ségou, plusieurs personnes ont été contraintes de quitter leurs habitations englouties par les eaux de ruissellement. Certains d'entre eux témoignent.
Je suis en location. Quand une maison en bail s'écroule, il n'est pas question de retourner y habiter. Je vais chercher une autre maison pour ma habilité.
Vu que je n'ai pas constaté d'allergie ni de maladie, je ne me suis pas rendu à l'hôpital. Tout le monde va bien par la grâce de Dieu.
Les eaux ont détruit nos maisons. Nous n'avons plus d'abri et nous n'avons pas de moyens pour en construire.
Nos maisons se sont effondrées. C'est l'argent qui paye les reconstruire.
Nous n'avons pas pu amener les enfants à l'hôpital. Pourtant, ils sont malades.
L'autre inquiétude liée à ces catastrophes est le risque d'épidémie et de maladie. Ces inondations constituent un problème de santé publique, affirme le professeur Daouda Kassou Menta. Pour ce praticien au CHU de Pongé, outre leurs conséquences négatives sur l'environnement, ces inondations peuvent occasionner des maladies hydriques infectieuses.
Vous allez voir les latrines qui vont être pleines, les eaux vont transfuger dans les puits et nous pouvons avoir des microbes qui peuvent souiller l'eau de boisson. Donc cette souillure peut occasionner une survenue peut-être d'une épidémie ou d'une flambée, soit de fièvre typhoïde, soit de choléra et d'autres maladies hydriques.
Au ministère de la Santé et du Développement social, on assure qu'il existe un plan d'action pour prévenir et lutter contre ces maladies. Docteur Amadou Kone, chargé de la lutte contre les vecteurs de maladies à la Direction générale de la Santé et de l'hygiène publique, donne quelques explications sur les actions entreprises par le département après une inondation.
C'est de traiter les latrines et les sources d'eau de consommation. Ces traitements aussi suivent certaines règles. On a des appareils qui permettent de détecter est-ce que l'eau-là est contaminée par des éléments chimiques, par des micro-organismes tels que les bactéries. Ces traitements de l'eau se font avec le chlore.
Les inondations détruisent également la biodiversité, des vies, des moyens de subsistance, des infrastructures et d'autres biens, soutient l'environnementaliste Abdrahman Sanogo. Il affirme que les eaux de ruissellement favorisent les risques sanitaires.
Parmi ces maladies, nous avons celles qui sont transmises directement par la consommation de l'eau, qui sont les dysenteries, les choléras, l'hépatite A, les fièvres typhoïdes, la poliomyélite et beaucoup d'autres maladies. Les deux acteurs de ces maladies là, séjournent dans les eaux stagnantes. Mais en plus des maladies, il y a aussi d'autres problèmes que les inondations peuvent causer, notamment les glissements de terrain. Ça entraîne aussi l'appauvrissement des sols.
Des propos corroborés par la Direction nationale de l'hygiène l'hygiène publique. Docteur Amadou Kone demande aux populations victimes d'inondations de se référer aux services d'hygiène afin d'éviter toute contamination découlant des eaux impropres à la consommation.
La communauté civile ne peut pas. Quand les gens veulent revenir chez eux, s'ils ont comme source de consommation un puits, ils doivent faire forcément appel aux hygiénistes de la santé qui ont des kits pour évaluer la qualité de l'eau. Avec ces analyses-là, si la quantité est acceptable et que c'est gérable seulement avec l'eau de Javel, ils traitent et puis la population consomme.
Les autorités assurent qu'en cas d'inondation, des équipes d'intervention rapide composées de spécialistes dans de nombreux domaines sont déployées par la Direction nationale de l'hygiène publique. Cela pour prévenir et lutter contre les maladies à transmission vectorielle.